C'est une grande joie pour moi d'être encore, une année après, parmi vous. Comme je disais tout à l'heure, ici, vraiment c'est ma première église. Il y a une quarantaine d'années, donc j'étais jeune assez à l'époque, je venais à cette église et j'ai appris beaucoup de choses dans cette église. Et je garde vraiment beaucoup de souvenirs. En tous les cas, je remercie beaucoup pour le Seigneur, je remercie le Seigneur pour le témoignage, pour le service de votre Église. Voilà donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important qui me tient au cœur, mais je pense qu'il faut que je bois de l'eau. Voilà, ça ira. Voilà, des fois ça arrive. Alors, donc, comme je disais, j'aimerais vous parler d'un sujet important qui me tient à cœur et qui est lié à ce verset, Romains chapitre 1, verset 6. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Pour introduire mon sujet, permettez-moi de vous poser quelques questions. Selon vous, comment recevoir le salut de Dieu et comment y rester? Comment Dieu offre-t-il ou communique-t-il aujourd'hui le salut aux individus? Et quels moyens prévoit-il pour qu'on y reste, on reste dans le salut? Est-ce par l'administration des sacrements ecclésiaux ou par la parole de Dieu proclamée et enseignée? Quelle place les sacrements et la proclamation de l'Évangile occupe-t-elle dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église? Et enfin, une autre question importante, quelle doit être la priorité de l'Église? L'administration, la célébration des sacrements ou la prédication de l'Évangile. Je pense que pour nous les évangéliques, la réponse paraît bien évidente. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres confessions chrétiennes. Sur ce sujet, il y a pas mal de tensions et de divergences. Il est vrai que toutes les confessions chrétiennes sont d'accord. Toutes les confessions chrétiennes sont d'accord pour dire que... Merci beaucoup, Eric. Merci. Alors, je disais, il est vrai que presque toutes les confessions chrétiennes sont d'accord pour dire que l'œuvre du salut est accomplie par le Christ sur la croix et par sa mort et sa résurrection, ce qui est déjà très positif. Les divergences apparaissent surtout concernant l'application ou la communication de ce salut accompli à l'individu. Donc, toutes les églises sont d'accord pour dire que le salut est accompli par le Christ, mais les divergences, c'est surtout au niveau comment appliquer ce salut, comment communiquer ce salut à l'individu. Par exemple, les églises catholiques et orthodoxes enseignent que le salut accompli par le Christ est offert, communiqué à l'individu et entretenu par les sept sacrements, notamment le baptême et la Sainte Cène. Ils croient que les sacrements ont en eux-mêmes le pouvoir de régénérer et de sauver. Donc les sacrements ont en eux-mêmes le pouvoir de donner la nouvelle naissance et le salut. C'est pourquoi la célébration des sept sacrements constitue le fondement même de la vie et de pratique de ces églises. Je pense que vous connaissez tous ces sept sacrements. Juste pour rappeler, il y a le baptême, la confirmation, la Sainte Cène, la pénitence, l'ordination, le mariage et l'onction des malades. Nous, les évangéliques, nous reconnaissons seulement les deux, le baptême et la Sainte Cène. Nous les appelons d'ailleurs non les sacrements, mais les ordonnances du Seigneur. Martin Luther, le réformateur bien connu, disait que l'Église catholique domine et exerce son autorité sur le peuple par le biais de ses sept sacrements. Et ce, de naissance jusqu'à la mort. Comme il croit que ces sacrements communiquent d'eux-mêmes la régénération et le salut à la personne, même sans la foi, dans ces églises, tout tourne autour de la célébration de ces sacrements. Dans cette perspective, la prédication de la parole de Dieu passe malheureusement au second plan. Puis, pour certaines églises, comme luthérienne et anglicane, la priorité est donnée à la fois à la célébration des sacrements et à la prédication de la parole, et cela de manière égale. Il n'existe donc ni primauté des sacrements sur la prédication, ni primauté de la prédication sur les sacrements. En ce qui concerne nous, les évangéliques, la priorité est donnée, bien sûr, avant tout, à la prédication, à l'annonce de l'Évangile. La célébration des sacrements garde bien sûr son importance, comme on a fait ce matin à la Sainte-Cène, mais elle reste au second plan, au service de l'Évangile proclamé. Bien sûr, c'est tout l'inverse de la position catholique. Après ce survol, venons-en maintenant à ce que la Bible nous enseigne sur ce sujet. La Bible est assez claire sur ce point. Dieu offre aujourd'hui son salut par l'annonce de sa parole, et non par des rites ou des sacrements. Pour montrer la supériorité de la parole de Dieu sur les sacrements, regardons ensemble 5 points. Premier point, avant tout, la foi chrétienne naît de l'annonce de la parole de Dieu. La foi chrétienne naît quand nous entendons l'Évangile. Et vous connaissez tous la parole de l'apôtre Paul, Romains 10, 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, si nous voulons que les gens croient en Christ, la première chose à faire, c'est d'annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle en Christ, la bonne nouvelle du salut en Christ. Deuxième point, c'est de nouveau, c'est la parole de Dieu par l'action de l'Esprit qui nous montre nos péchés et nous conduit à croire en Christ et à nous repentir. Encore une fois, l'apôtre Paul dit au jeune Timothée, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » De Timothée 3, 16. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, nous illumine et nous montre notre état spirituel. C'est la parole de Dieu. Et David aussi, il disait, les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Psaume 19, 9. Troisième point, c'est encore par la parole de Dieu que l'Esprit réalise la régénération et le salut du pécheur qui se repent. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous régénère, nous sauve lorsque nous nous convertissons. Et donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, l'apôtre Pierre dit, « En effet, vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente, permanente de Dieu. » Quatrième point, l'homme est sauvé par la grâce du Christ au moyen de la foi. Vous connaissez tous Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Christ, bien sûr. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La doctrine biblique du salut par la grâce au moyen de la foi exclut clairement l'idée d'un salut transmis par le baptême ou par d'autres rites ou sacrements. L'apôtre Paul lui-même ne voyait pas, ne considérait pas que le baptême ni aucun autre sacrement pouvait conférer le salut. Surtout lorsqu'il disait 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14-17, je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucune de vous, excepté Crispus et Gaius. Et ensuite, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile. C'est pour annoncer l'Évangile que Christ m'a envoyé. Donc, ces paroles soulignent très bien que vraiment la parole prêchée est supérieure au tout sacrement, au rite religieux. Alors, cinquième point, l'homme n'est pas seulement sauvé par la parole de Dieu, mais il est aussi nourri, fortifié et amené à grandir spirituellement par la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous conduit pas seulement au salut, mais la parole de Dieu nous aide à être grandir en Christ, à être fortifié, à avancer. Je pense qu'il y a tellement de versets sur ce sujet, je vais juste citer un verset, 1 Pierre 2, première deux versets, il dit, l'apôtre Pierre, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Ainsi, grâce à lui, grâce à la parole de Dieu, vous grandirez pour le salut. Donc, non seulement le salut nous est communiqué par la parole de Dieu, mais elle nous aide aussi à y demeurer et avancer par la parole de Dieu. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, les apôtres, ils donnaient la priorité toujours à l'Évangile, à la proclamation de l'Évangile. Ils enseignaient, ils présentaient qui était Christ, pourquoi il était venu, et ensuite ils appelaient à la conversion. Et ceux qui acceptaient ce message, ils se repentaient, et ensuite ils se faisaient baptiser, et ensuite donc la Sainte Cène, la communion fraternelle. Donc sur ce sujet, au jour de la Pentecôte, comme on le sait, et ensuite quand l'évangéliste Philippe a annoncé la parole de Dieu à partir du livre d'Ésaïe à l'Eunuque, et donc il y a toutes ces vérités dedans. Alors, ainsi les sacrements ne sont pas des moyens par lesquels Dieu transmet ou entretient le salut, mais c'est la parole vivante de Dieu qui le fait, qui nous communique le salut et qui nous aide à rester dans le salut. Les sacrements sont des signes visibles par lesquels l'homme répond à l'appel de Dieu et exprime à Dieu sa gratitude. Alors avant de terminer, je voudrais souligner brièvement les quatre dangers spirituels liés à l'approche sacramentale du baptême ou des autres sacrements. Première, cette manière de voir les sacrements pousse les croyants à les idolâtrer, à tomber dans une foi superstitieuse. C'est comme un peu l'exemple de Moïse, à l'époque de Moïse. Les Israélites mordus par des serpents étaient guéris quand ils ont regardé par la foi le serpent d'airain. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? Plus tard, ce même serpent a été idolâtré et transformé en objet de culte. De la même manière, dans l'histoire de l'Église, les sacrements, ou aussi d'autres choses, ont connu une dérive semblable. On a fini par leur attribuer un pouvoir presque magique, comme j'ai dit, jusqu'à les idolâtrer. Deuxième point, cette conception pousse les gens à idolâtrer non seulement les sacrements, mais aussi l'Église et ses ministres qui les administrent. De sorte que malheureusement, beaucoup de personnes, au lieu de placer leur foi en Christ, la place dans l'autorité de l'Église, dans ses rites ou dans ses sacrements. Troisième point, cette manière de voir les sacrements fausse et altère même le service et le témoignage des croyants. Et plus encore, la mission de l'Église dans la société. Au lieu de mettre Christ et sa parole au centre, on met les rites au premier plan. Et quatrième et dernier point, malheureusement, cette conception des sacrements et surtout du baptême est la source d'un christianisme superficiel, traditionnel, social ou culturel. On le constate effectivement aujourd'hui, beaucoup de personnes convaincues d'avoir déjà été régénérées, d'être sauvées, souvent en raison de leur baptême reçu dans l'enfance, ne ressentent plus la nécessité d'une nouvelle naissance et d'une repentance sincère, et en se fiant donc ce qu'ils ont vécu à l'enfance par le baptême ou par d'autres sacrements. Plus grave encore, lors des funérailles, moi j'ai été plusieurs fois témoin, on entend souvent des officiants des églises affirmer que la personne décédée est sauvée et se trouve au ciel simplement parce qu'il avait été baptisé. Certes, ça rassure les proches, mais ça entretient un faux espoir. Penser qu'un sacrement suffit pour être sauvé, même sans la foi, ni la vraie repentance, c'est un piège. En réalité, cette conception détourne les personnes de l'appel urgent à la conversion et obscurcissent la nécessité d'une véritable nouvelle naissance. Alors, quelle est la conclusion pratique du message aujourd'hui pour chacun de nous? Quatre mots. D'abord, attache-toi à la parole de Dieu. Deuxième, annonce la parole de Dieu. Troisième, enseigne la parole de Dieu. Et quatrième, surtout personnellement, obéis et vis la parole chaque jour. Comme au début, j'ai cité le verset Romains 1, 16, il dit en effet, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Pourquoi ? C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et vous vous rappelez sûrement Hébreux 4, 12, on lit ceci, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si vous voulez, levons-nous pour la prière. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes. Merci pour la Bible, pour son message du salut. Aide-nous, Seigneur, vraiment d'attacher à ta parole, de vivre avec ta parole, et Seigneur, d'annoncer ta parole aux autres. Bénis chacun de nous et bénis cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.